Chapitre 3. Vers les Common Gallows. Les corbeaux de la tour vivent très vieux, plus de 100 ans, dit-on. Le même énorme corbeau, attentif et sournois, qui 7 ans plus tôt cherchait à piquer les yeux du prisonnier à travers les barreaux du soupirail, était revenu se poster devant la cellule. Était-ce par dérision qu'on avait assigné à Mortimer son cachot d'autrefois? Là où le père l'avait gardé 17 mois enfermé, le fils à son tour le tenait captif. Mortimer se disait qu'il devait y avoir dans sa nature, dans sa personne, quelque chose qui le rendait intolérable à l'autorité royale, ou qui lui rendait insupportable cette autorité. De toute manière, un roi et lui ne pouvaient cohabiter dans la même nation, et il fallait bien que l'un des deux disparût. Il avait supprimé un autre roi allait le supprimer. C'est un grand malheur que d'être né avec une âme de monarque quand on n'est pas destiné à régner. Mortimer, cette fois, n'avait plus l'espérance ni même le désir de s'évader. Il lui semblait être déjà mort depuis Nottingham. Pour les êtres tels que lui, dominés par l'orgueil et dont les plus hautes ambitions ont été un moment satisfaites, la chute équivaut au trépas. Le vrai Mortimer était à présent, et pour l'éternité humaine, inscrit dans les chroniques d'Angleterre. Le cachot de la tour ne contenait que sa charnelle mais indifférente enveloppe. Chose singulière, cette enveloppe avait retrouvé des habitudes. De la même manière que lorsqu'on revient après 20 ans d'absence dans la demeure où l'on vécut enfant, on pèse du genou machinalement et par une sorte de mémoire musculaire sur le battant de la porte qui autrefois forçait, ou bien l'on pose le pied au plus large de l'escalier pour éviter le bord d'une marche usée, de la même manière, Mortimer avait repris les gestes de sa précédente détention. Il pouvait, la nuit, franchir les quelques pas du soupirail au mur sans jamais se cogner. Il avait, dès son entrée, repoussé l'escabelle à sa place ancienne. Il reconnaissait les bruits familiers, la relève de la garde, la sonnerie des offices à la chapelle Saint-Pierre, et cela sans le moindre effort d'attention. Il savait l'heure où on lui apportait son repas. La nourriture était à peine moins mauvaise que du temps de l'ignoble constable Seagrave. Parce que le barbier Ogle avait servi d'émissaire à Mortimer la première fois pour organiser sa fuite, on refusait de lui envoyer quelqu'un pour le raser. Une barbe d'un mois lui poussait aux joues, mais à ce détail près, tout était semblable, jusqu'à ce corbeau que Mortimer avait naguère surnommé Edward, et qui feignait de dormir, ouvrant de temps en temps son œil rond avant de lancer son gros bec à travers les barreaux. Ah si, quelque chose manquait. Les monologues tristes du vieux Lord Mortimer de Churk, gisant sur la planche qui servait de couche. À présent, Roger Mortimer comprenait pourquoi son oncle avait refusé autrefois de le suivre dans son évasion. Ce n'était ni par peur du risque, ni même par faiblesse de corps. On a toujours assez de force pour entreprendre un chemin, même si l'on doit y tomber. C'était le sentiment que sa vie était terminée qui avait retenu le Lord de Churk et lui avait fait préférer attendre sa fin sur ce bas-flanc. Pour Roger Mortimer, qui ne comptait que 45 ans, la mort ne viendrait pas d'elle-même. Il éprouvait une vague angoisse lorsqu'il regardait vers le centre du green, la place où l'on dressait habituellement le billot. Mais on s'habitue à la proximité de la mort par toute une suite de pensées très simples qui s'organisent pour constituer une mélancolique acceptation. Mortimer se disait que le corbeau sournois vivrait après lui et narguerait d'autres prisonniers. Les rats aussi vivraient, les gros rats mouillés qui montaient la nuit des berges vaseuses de la Tamise et couraient sur les pierres de la forteresse. Même la puce qui le taquinait sous sa chemise sauterait sur le bourreau le jour de l'exécution et continuerait de vivre. Toute vie qui s'efface du monde laisse les autres vies intactes. Rien n'est plus banal que de mourir. Quelquefois, il songeait à sa femme, Lady Jeanne, sans nostalgie ni remords. Il l'avait assez tenue à l'écart de sa puissance pour que l'on eût quelque raison de s'en prendre à elle. On lui laisserait sans doute la disposition de ses biens personnels. Ses fils, certes, ses fils auraient à subir la séquelle des haines dont il était l'objet, mais comme il y avait peu de chances qu'ils devinssent jamais hommes d'aussi vaste valeur et d'aussi haute ambition que lui, qu'importait qu'ils fussent ou ne fussent pas comtes dans les marches. Le grand Mortimer, c'était lui, ou plutôt ce qu'il avait été. Ni pour sa femme, ni pour ses fils, il n'éprouvait de regrets. La reine, La reine Isabelle mourrait un jour, et de cet instant-là, il n'existerait plus personne sur Terre à l'avoir connue dans sa vérité. C'était seulement lorsqu'il pensait à Isabelle qu'il se sentait encore quelque peu rattaché à l'existence. Il était mort à Nottingham, certes, mais le souvenir de son amour continuait de vivre, un peu comme les cheveux s'obstinent à croître quand le cœur a cessé de battre. Voilà tout ce qui restait au bourreau à trancher. Quand on séparerait la tête du corps, on anéantirait le souvenir des mains royales qui s'étaient nouées à ce coup. Comme chaque matin, Mortimer avait demandé la date. On était le 29 novembre. Le Parlement devait donc se trouver réuni et le prisonnier s'attendait à comparaître. Il connaissait assez la lâcheté des assemblées pour savoir que nul ne prendrait sa défense, bien au contraire. Lords et communes allaient se venger avec empressement de la terreur qu'il leur avait si longtemps inspirée. Le jugement avait déjà été prononcé dans la chambre de Nottingham. Ce n'était pas à un acte de justice qu'on allait le soumettre, mais seulement à un simulacre nécessaire, une formalité, tout exactement comme lors des condamnations naguère ordonnées par lui. Un souverain de 20 ans, impatient de gouverner, et de jeunes lords impatients d'être les maîtres de la faveur royale, avaient besoin de sa disparition pour être sûrs de leur pouvoir. Ma mort pour ce petit Édouard est l'indispensable complément de son sacre. Et pourtant, ils ne feront pas mieux que moi. Le peuple ne sera pas davantage satisfait sous leur loi. Là où je n'ai pas réussi, qui donc pourrait réussir ? Quelle attitude devrait-il adopter pendant le simulacre de justice ? Se faire suppliant, comme le comte de Kent, battre sa coulpe, implorer, offrir sa soumission, pieds nus et la corde au cou, en confessant le regret de ses erreurs ? Il faut avoir grande envie de vivre pour s'imposer la comédie de la déchéance. Je n'ai commis aucune faute. J'ai été le plus fort, et le suis resté jusqu'à ce que d'autres, plus forts pour un moment, m'abattent. C'est tout. Alors l'insulte ? Faire face une dernière fois à ce parlement de moutons et lui lancer « J'ai pris les armes contre le roi Édouard II, mais lords, lesquels d'entre vous qui me jugez ce jour ne m'ont pas suivi alors ? Je me suis évadé de la tour de Londres, mais lords évêques, lesquels d'entre vous qui me jugez ce jour n'ont pas fourni aide et trésors pour ma liberté ? J'ai sauvé la reine Isabelle d'être tuée par les favoris de son époux. J'ai levé des troupes et armé une flotte qui vous ont délivré des Despenser. J'ai déposé le roi que vous haïssiez et fait couronner son fils qui ce jour me juge. Mes lords, comtes, barons et évêques, et vous, messieurs des communes, lesquels d'entre vous ne m'ont pas loué pour tout cela, et même pour l'amour que la reine m'a porté ? Vous n'avez rien à me reprocher que d'avoir agi en votre place, et vous avez belles dents à me déchirer pour faire oublier par la mort d'un seul ce qui fut la besogne de tous. » Ou bien le silence. Refuser de répondre à l'interrogatoire, refuser de présenter une défense, ne pas prendre l'inutile peine de se justifier, laisser hurler les chiens qu'on ne tient plus sous le fouet. Mais combien j'avais raison de les soumettre à la peur. Il fut tiré de ses pensées par des bruits de pas. « Voici le moment, » se dit-il. La porte s'ouvrit et des sergents d'armes apparurent qui s'écartèrent pour laisser passer le frère du défunt comte de Kent, le comte de Norfolk, maréchal d'Angleterre, suivi du lord maire et des shérifs de Londres, ainsi que de plusieurs délégués des lords et des communes. Tout ce monde ne pouvait tenir dans la cellule et les têtes se pressaient dans les trois couloirs. « My lord, » dit le comte de Norfolk, « je viens d'ordre du roi vous donner la lecture du jugement rendu à votre endroit l'autre avant-hier par le Parlement assemblé. » Les assistants furent surpris de voir, à cette annonce, Mortimer sourire. Un sourire calme, méprisant, qui ne s'adressait pas à eux, mais à lui-même. Le jugement était déjà rendu depuis 2 jours, sans comparution, sans interrogatoire, sans défense. Alors que l'instant d'avant, il s'inquiétait de la figure à prendre devant ses accusateurs. Vain souci. On lui infligeait une ultime leçon. Il aurait pu aussi bien se dispenser naguère pour les Despenser, pour le comte d'Arundel, pour le comte de Kent, d'aucune formalité judiciaire. Le coroner de la cour avait commencé de lire le jugement. « Vu que ce fut ordonné par le Parlement séant à Londres, immédiatement après le couronnement de notre seigneur le roi, que le conseil du roi comprendrait 5 évêques, 2 comtes et 5 barons, et que rien ne pourrait être décidé hors de leur présence, et que ledit Roger Mortimer, sans égard à la volonté du Parlement, s'appropria le gouvernement et l'administration du royaume, déplaçant et plaçant à sa guise les officiers de la maison du roi et de l'ensemble du royaume, pour y introduire ses propres amis selon son bon plaisir. Debout, adossé au mur et la main posée sur un barreau du soupirail, Roger Mortimer regardait le Green et paraissait à peine intéressé par la lecture. « Vu que le père de notre roi ayant été conduit au château de Kenilworth par ordonnance des pères du royaume pour y demeurer et y être traité selon sa dignité de grand prince, ledit Roger ordonna de lui refuser tout ce qu'il demanderait et le fit transférer au château de Berkeley où finalement, par ordre dudit Roger, il fut traîtreusement et ignominieusement assassiné. « Va-t'en, mauvais oiseau !» cria Mortimer, à l'étonnement des assistants, parce que le corbeau sournois venait de lui décharger un grand coup de bec sur le dos de la main. Vu que, bien qu'il fût interdit par ordonnance du roi, scellé du grand sceau, de pénétrer en armes dans la salle de délibération du Parlement séant à Salisbury, ceci sous peine de forfaiture, ledit Roger et sa suite armée n'en pénétrèrent pas moins, violant ainsi l'ordonnance royale. La liste des griefs s'allongeait, interminable. On reprochait à Mortimer l'expédition militaire contre le comte de Lancastre, les espions placés auprès du jeune souverain et qui avaient contraint celui-ci de se conduire plutôt en prisonnier qu'en roi, l'accaparement de vastes terres appartenant à la couronne, la rançon, le dépouillement, le bannissement de nombreux barons, la machination montée pour faire croire au comte de Kent que le père du roi était toujours vivant, ce qui détermina ledit comte à vérifier les faits par les moyens les plus honnêtes et les plus loyaux. L'usurpation des pouvoirs royaux pour traduire le comte de Kent devant le Parlement et le faire mettre à mort. Le détournement des sommes destinées à financer la guerre de Gascogne, ainsi que des 30 000 marks d'argent versées par les Écossais en exécution du traité de paix. La main mise sur le trésor royal, de sorte que le roi n'était plus en état de tenir son rang. Mortimer était accusé encore d'avoir allumé la discorde entre le père du roi et la reine consort. Étant ainsi responsable du fait que la reine ne revint jamais à son seigneur pour partager son lit, au grand déshonneur du roi et de tout le royaume, et enfin d'avoir déshonoré la reine en se montrant auprès d'elle comme son paramour notoire et avoué. Mortimer, les yeux au plafond et se caressant la barbe, souriait à nouveau. C'était toute son histoire qu'on lisait, et qui, sous cette forme étrange, allait entrer à jamais dans les archives du royaume. C'est pourquoi le roi s'en est remis aux comtes, barons et autres, pour prononcer un juste jugement contre ledit Roger Mortimer. Ce que les membres du Parlement, après s'être concertés, ont admis, déclarant que toute charge énumérée était valable, notoire, connue de tout le peuple, et particulièrement l'article touchant la mort du roi au château de Berkeley. C'est pourquoi il est décidé par eux que ledit Roger, traître et ennemi du roi et du royaume, sera traîné sur la claie, et puis pendu. » Mortimer eut un léger sursaut. « Donc ce ne serait pas le billot ? » Jusqu'au bout, il y avait de l'imprévu. « Et aussi que la sentence sera sans appel, ainsi que le dit Mortimer lui-même en a autrefois décidé dans les procès des deux Despenser et du défunt Lord Edmond, comte de Kent et oncle du roi. » Le clerc avait terminé et roulait les feuilles. Le comte de Norfolk, frère du comte de Kent, regardait Mortimer dans les yeux. Qu'avait-il fait, celui-là, qui s'était tenu bien quoi ces derniers mois, pour reparaître en affectant un air vengeur et justicier? À cause de ce regard, Mortimer eut envie de parler, oh, brièvement, juste pour dire au comte maréchal et, à travers ce personnage, au roi, aux conseillers, aux lords, aux communes, aux clergés, au peuple tout entier, quand il paraîtra au royaume d'Angleterre un homme capable d'accomplir telle chose que vous venez d'énumérer, vous vous soumettrez à lui de rechef, tout également que vous me fûtes soumis. Mais je ne crois pas qu'il naisse de sitôt. À présent, il est temps d'en finir. Est-ce maintenant que vous me conduisez ? Il semblait donner encore des ordres et commander sa propre exécution. « Oui, my lord, » dit le comte de Norfolk, « c'est à présent. Nous vous menons au Common Gallows. » Les Common Gallows, le gibet des voleurs, des bandits, des faussaires, des vendeurs de filles, le gibet de la crapule. « Bien, allons, » dit Mortimer. Mais auparavant, vous devez être dépouillé pour la clé. Fort bien. Dépouillez-moi. » On lui ôta ses vêtements, ne lui laissant qu'une toile autour des reins. Il sortit ainsi, nu parmi cette escorte chaudement vêtue, sous une petite pluie bruinante de novembre. Son haut corps musclé faisait une tache claire parmi toutes les robes sombres des shérifs et les vêtements de fer de la garde. La claie était dans le green, construite de lattes rugueuses posées sur deux patins et accrochée au harnais d'un cheval de trait. Mortimer conserva son sourire méprisant pour regarder cet équipage. Que de soin, que d'application à l'humilier. Il se coucha sans aide et on lui lia les poignets et les chevilles aux traverses de bois. Puis le cheval se mit en marche et la claie commença de glisser, d'abord doucement sur l'herbe du green, puis en raclant le gravier du chemin. Le maréchal d'Angleterre, le lord maire, les délégués du Parlement, le constable de la tour suivaient. Une escorte de soldats, la pique sur l'épaule, ouvrait la route et protégeait la marche. Le cortège sortit de la forteresse par la Traitor's Gate, où une foule attendait, curieuse, houleuse, cruelle, qui ne fit que grossir le long du chemin. Quand on a généralement considéré les multitudes du haut d'un cheval ou d'une estrade, c'est une impression étrange que de les regarder soudain depuis le niveau du sol, d'apercevoir tous ces mentons agités, toutes ces bouches déformées par les cris, ces milliers de narines ouvertes. Les hommes ont vraiment de mauvais visages observés ainsi, et les femmes également, des visages grotesques et méchants, d'affreuses gueules de gargouilles sur lesquelles on n'a pas assez frappé lorsqu'on était debout. Et sans cette petite bruine qui lui tombait droit dans les yeux, Mortimer, secoué et cahoté sur sa claie, aurait mieux pu voir ces faces de haine. Quelque chose de visqueux et de mou l'atteignit à la joue, lui coula dans la barbe. Mortimer comprit que c'était un crachat. Et puis, une douleur aiguë, perçante, le traversa tout entier. Une main lâche lui avait lancé une pierre au bas-ventre. Sans les piquer, la foule, s'enivrant de ses propres hurlements, l'eût déchiré sur place. Il avançait sous une voûte sonore d'insultes et de malédictions, lui qui, 6 ans plus tôt, sur toutes les routes d'Angleterre, n'entendait s'élever que des acclamations. Les foules ont 2 voix, une pour la haine, l'autre pour l'allégresse. C'est merveille que tant de gorges hurlant ensemble puissent produire 2 rumeurs si différentes. Et brusquement, ce fut le silence. Était-on déjà parvenu au gibet? Mais non. On était entré à Westminster, et l'on faisait passer la clé lentement sous les fenêtres où se pressaient les membres du Parlement. Ceux-ci se taisaient en contemplant, traîné comme un arbre fourchu sur les pavés, celui qui tant de mois les avait pliés à sa volonté. Mortimer, les yeux emplis de pluie, cherchait un regard. Peut-être par suprême cruauté avait-on fait obligation à la reine Isabelle d'assister à son supplice. Il ne l'aperçut pas. Puis le cortège se dirigea vers Tyburn. Arrivé au Common Gallows, le condamné fut délié et rapidement confessé. Une dernière fois, Mortimer domina la foule, du haut de l'échafaud. Il souffrit peu, car la corde du bourreau, en le soulevant brusquement, lui rompit les vertèbres. La reine Isabelle se trouvait ce jour-là à Windsor, où elle se remettait lentement d'avoir perdu, en même temps que son amant, l'enfant qu'elle attendait de lui. Le roi Édouard fit savoir à sa mère qu'il viendrait passer avec elle les fêtes de Noël.